Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est donc le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Étrange cette façon qu'a la presse aujourd'hui de rendre compte du discours de François Hollande hier, salle Wagram à Paris. La forme semble s'être substituée au fond. Ce que les observateurs retiennent avant tout, c'est l'entrée en campagne du chef de l'État, sa posture combative à l'égard de ses futurs adversaires, les petites et grosses piques qu'il leur adresse, davantage en tout cas que le cœur du propos, à savoir, puisque c'était le thème de cette intervention, la démocratie face au terrorisme. L'intervention du président de la République mérite pourtant qu'on s'y arrête davantage. François Hollande s'est placé en défenseur de l'état de droit, en gardien de la Constitution, oubliant peut-être un peu vite qu'il voulait la réformer l'hiver dernier pour y inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Et comme gage de ses bonnes intentions et de ses bonnes pratiques, il a fait aussi appel aux erreurs du passé, celles commises ailleurs qu'en France. Est-ce que l'adoption du Patriot Act ou le camp de Guantanamo ont préservé les États-Unis de la menace, a questionné le chef de l'État pour répondre par la négative. Alors la France a-t-elle tiré les leçons du 11 septembre ? Eh bien, c'est le sujet de notre deuxième club des idées du grain, lequel club s'inscrit aujourd'hui dans une journée spéciale que vous propose France Culture depuis ce matin, l'Amérique aujourd'hui. Et nous a rejoint dans ce club Ludivine Bantigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférence à l'Université de Rouen. Vous êtes une des contributrices de La vie intellectuelle en France, une somme que va publier Le Seuil dans quelques jours. Si je le mentionne, c'est parce qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler assez prochainement. Les trois autres membres du club présents ce soir, vous les avez déjà entendus la semaine dernière. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées chaque samedi sur France Culture. Sylvain Bourmeau, professeur associé à l'EHESS. Et puis Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignante à Sciences Po Paris, vous êtes politologue et vous avez publié cette année Les Bûchers de la Liberté.
Les deux villes porte-étendard des États-Unis, donc New York et Washington, ont été frappées par des attentats qu'on osait à peine imaginer dans les pires scénarios de catastrophe.
Les attaques délibérées et meurtrières qui ont été menées hier contre notre pays étaient plus que des actes de terreur. Elles étaient des actes de guerre.
La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens.
Jamais dans sa longue histoire, en dehors de périodes de guerre, la France n'avait connu sur son sol de telles scènes, des kamikazes armés de Kalachnikov et porteurs de ceintures d'explosifs en plein Paris.
La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs.
Liberté, égalité, fraternité. Are not only values that the French people...
Ces valeurs ne sont pas chéries uniquement par le peuple français. Nous les partageons aussi. Et ces valeurs vont survivre en dépit du terrorisme et de la haine de ceux qui ont perpétré les attaques de ce soir.
Voilà, vous l'avez compris, même si comparaison n'est pas raison, ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de voir en quoi les réactions qui ont pu être celles du gouvernement américain en 2001 ont pu servir de leçon ou pas, de contre-exemple peut-être au gouvernement français. J'évoquais Les Bûchers de la Liberté d'Anastasia Colosimo, votre livre, que vous démarriez dans votre avant-propos en racontant que vous, le premier peut-être événement marquant, véritablement marquant pour vous, ça a été justement le 11 septembre 2001. Vous n'aviez que 11 ans, mais vous écrivez... L'incompréhension originelle mûra en volonté de comprendre. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a eu une forme de fin de l'innocence, alors en 2001 et à nouveau en 2015, peut-être pour les Français, de se dire voilà, bah, le monde dans lequel on croyait vivre n'était pas celui dans lequel nous vivions?
Je pense que c'est assez particulier pour ma génération parce que, enfin, je parle là au nom de la génération qui est née après la chute du mur de Berlin. Je suis née en 90. Donc effectivement, moi j'ai grandi dans un monde où on nous a promis la paix perpétuelle, c'était l'Europe. Alors bon, ça commençait déjà un peu à déconner, mais en tout cas on pensait pas du tout que ça serait la guerre, et surtout on pensait pas que ça serait la guerre sur notre territoire. Et je pense qu'il y a eu le 11 septembre qui a été un événement très marquant, je pense, pour tout le monde. Pour notre génération, ça a été l'entrée dans l'histoire, parce que c'était le premier attentat de cette ampleur retransmis à la télé en direct. Je crois qu'on a tous ces images-là, avec les gens qui sautaient des immeubles. Enfin, c'était vraiment apocalyptique. Et ensuite, je pense que ça, c'était une première perte d'innocence. Et évidemment, les attentats qui ont lieu à Paris en 2015, c'était là encore un pas supplémentaire.
Est-ce que vous partagez cette idée d'une fin de l'innocence, le divine Bantigny? Et si oui, ce serait une innocence par rapport à quoi? Est-ce que ce serait par rapport au fait justement que la France n'est peut-être pas aussi respectée, aussi aimée à l'extérieur de ses frontières? Peut-être aussi le fait que à l'intérieur même du pays, le contrat social, disons, n'est pas aussi solide qu'il y paraissait?
Oui, moi j'ai été frappée en écoutant le discours de François Hollande hier, qu'il fasse ressurgir une sorte de propos à la fois patriotique et militaire, sous les dehors d'une rhétorique républicaine, mais finalement qui sonne un peu creux hein, quand on examine de plus près sur le vivre ensemble, sur l'égalité, la fraternité, la liberté. On pourra y revenir plus précisément sur chacune de ces notions. La fin de l'innocence, je pense que quand on remet en perspective historique, même de moyen terme, les événements du 11 septembre, on s'aperçoit que la guerre, finalement, était quand même une guerre sans fin, y compris pour la France. Bon, il y a toujours les traumatismes des guerres coloniales hein, qui continuent de jouer, qui ont continué de jouer longtemps, et y compris dans l'instauration toute récente de l'état d'urgence, puisque c'était une façon de réactiver une législation qui datait de la guerre d'Algérie et qui était expressément colonialiste. En fait. Mais les guerres elles n'ont jamais cessé impliquant la France, que ce soit guerre du Golfe, guerre d'Afghanistan... guerre en Centrafrique, au Mali, voilà. Donc, bien sûr,
ces guerres-là existaient peut-être sans que nous ayons conscience que nous étions en guerre.
C'est ça, mais justement, là, ce qui est en train de nous arriver, ce sont aussi les conséquences directes de ces interventions qui ne peuvent pas nous étonner, malheureusement.
Sylvain Bourmeau.
Je rejoins l'analyse de Ludivine Bantigny dans le sens où, évidemment, je me souviens, comme tout le monde ici autour de la table et certainement la grande majorité des auditeurs de ce jour du 11 septembre 2001. Je sais parfaitement où j'étais lorsque ça s'est passé. Ici, dans cette maison de la radio, on faisait une réunion pour la suite dans les idées quotidiennes à l'époque quand on a appris cette nouvelle. Donc, c'est un événement au sens le plus fort du terme. Il n'y a pas de doute et qui a été ressenti sur l'ensemble de la planète, qui est dans les mémoires aujourd'hui de tout le monde. Néanmoins, je suis toujours un peu gêné depuis par des analyses qui reposent sur des périodisations. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire de l'histoire que de s'intéresser de façon peut-être un peu scolaire à certaines dates charnières. C'est-à-dire que, alors voilà, la chute du mur de Berlin, on serait sorti de l'histoire, nous dit Fukuyama, et puis hop, on y rentre avec le 11 septembre. Moi, j'ai jamais eu l'impression de sortir de l'histoire. J'ai toujours essayé d'en être le contemporain. Et je pense que Ludivine Bantigny a raison. J'allais abonder dans ce sens de pointer des tendances longues, de pointer des processus et à la fois des changements. Parce que le terrorisme qui frappe les États-Unis le 11 septembre, ce n'est pas celui qui frappe Paris le 13 novembre de l'année passée. Ce sont des groupes différents qui ont des sociologies différentes, qui ont des modes d'action différents, etc., etc., etc. Donc il y a à la fois évidemment des différences sur lesquelles il faut pointer, et en même temps je pense qu'on a intérêt à changer en permanence d'échelle et à arrêter de chapitrer l'histoire, parce que c'est s'interdire, je pense, de comprendre beaucoup de choses.
Philippe Manière.
Non, mais ce serait évidemment déraisonnable de chapitrer au point qu'on ne retienne plus que des points entre lesquels il y a des périodes stables qu'on pourrait décrire comme étant les pures conséquences des fins de chapitre précédents. C'est évident.
C'est beaucoup ce qui est fait par les médias quand même.
Oui, enfin, on ne peut pas leur demander autre chose. Les médias, ils sont là pour dire que l'actualité est importante, sinon on ne les écouterait pas. Donc c'est une fatalité. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Et naturellement, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire. Ça fait quand même une cinquantaine d'années qu'on sait qu'on peut faire une histoire autrement. Et tout ça est très bien. Je continue quand même à penser, pour ma part, que le 11 septembre est une date qui a une importance vraiment capitale. Pour toute une série de raisons. D'abord, la quantité des victimes, extrêmement considérable. La symbolique très forte, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, de la destruction de ces deux tours immenses qui manifestaient en quelque sorte la gloire des États-Unis. Et puis quelque chose qui est très important qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant. Oui, la France avait été en guerre. Oui, les États-Unis avaient fait des guerres. On leur a fait reprocher d'en faire trop, et sans doute, et c'est un peu vrai. Mais enfin, la guerre sur son sol, c'est tout à fait différent. Il faut remonter à l'attaque de Washington par les Britanniques au 19e siècle pour retrouver quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'on voit avec le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est quelque chose qui est, du point de vue des Américains, mais par contre, contagion du point de vue de tous les citoyens du monde absolument extraordinaire. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le mot qui revenait et qui, je crois, était le bon, c'était sidération. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas croire que c'était arrivé. Et pourtant, comme le soulignaient d'autres intervenants, c'était sous nos yeux. Donc il y avait cette espèce de double phénomène incroyable. Quelque chose arrivait dont on n'envisageait pas un instant qu'il puisse arriver. Et en plus, on le voyait. Jusqu'alors, on voyait des choses qui étaient vaguement prévisibles. Et en plus, on ne les voyait pas, on nous les décrivait. Donc il y a quelque chose d'absolument unique, à mon avis, dans cet événement. Et il y a un deuxième point que je voudrais rapidement mentionner, c'est que les événements qui ont frappé la France sont terribles. Évidemment, il ne s'agit pas de les relativiser. Mais il est vrai que la France, pour le coup, à la différence des États-Unis, avait non pas une forme d'habitude, mais connaissait ce que c'était que de connaître ce que d'avoir ce type d'agissement terroriste sur son sol. Donc c'est une deuxième différence considérable. La France, elle, a connu, vous vous souvenez, les attentats, il y a eu la vague au moment de Chirac, Saint-Michel, Publicis avant, on peut remonter jusqu'à Goldenberg, etc. Il y a l'attentat de la rue des Rosiers. Il y a tout un tas d'événements dans l'histoire récente française qui font que ce qu'on vit aujourd'hui est terrible, dramatique, nouveau par la magnitude, mais pas si nouveau qu'était le 11 septembre pour les Américains.
Alors, peut-être que la France, effectivement, de par son histoire, avait la capacité, disons, à réagir à ces attentats, à ces vagues d'attentats terroristes, en puisant uniquement dans son expérience, sans forcément aller chercher ailleurs. Mais ce qui a été quand même assez frappant au fil des mois après janvier et après novembre, ça a été quand même ces références répétées à ce qui avait pu se passer aux États-Unis, les conséquences politiques intérieures aux États-Unis, sur le fait de dire, attention, n'allons pas trop loin dans la restriction de liberté, ne prenons pas le risque, par exemple, de faire un nouveau Patriot Act. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que de ce point de vue, la France a réussi justement à ne pas aller vers les dérives qu'ont connues les États-Unis dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, Anastasia Colosimo?
S'il faut réfléchir à ce qu'ont fait les États-Unis après 2001, il faut voir qu'il y a eu deux volets. Il y a le volet extérieur qui était la guerre, donc c'était faire la guerre à l'extérieur, et qui tout d'un coup était en rupture totale avec le droit international, ou en tout cas l'idée qu'on se faisait de la guerre juste, puisque c'était la théorie de la guerre préventive.
Pas en Afghanistan.
Non, mais okay, bon, ouais, c'est à ce moment-là en tout cas que le concept a été lancé.
Et en tout cas en Irak.
En Irak, c'était quand même clairement le cas. Et à l'intérieur, ça a été le Patriot Act. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'on n'a pas fait vraiment autre chose. On a décidé, après les attentats, on a décidé de faire la guerre à l'extérieur. Et on a pris un certain nombre de lois. On a pris surtout l'état d'urgence, la loi sur le renseignement, mais aussi un certain nombre de lois qui sont vraiment pas très loin, en fait, du Patriot Act.
Alors attendez, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Enfin, depuis le début, hein, c'est intéressant ce que vous dites, je vous rassure tous les quatre. Non, mais c'est vrai qu'il y a ces deux dimensions, c'est-à-dire la dimension intérieure et la dimension extérieure. Peut-être d'abord sur la dimension intérieure, si vous voulez bien, si là, vous êtes d'accord, c'est-à-dire on n'a pas été si éloigné que ça de ce qu'a pu être le Patriot Act. Bon, on n'est peut-être pas si éloigné que ça, il faut rappeler quand même, on est toujours sous le régime de l'état d'urgence, il est prolongé jusqu'à janvier 2017.
Il y a des différences, il faudrait comparer terme à terme. C'est vrai que le Patriot Act a servi de référence, la même ou d'ailleurs d'autres références auraient pu être utiles. Je pense en particulier à la politique de lutte contre le terrorisme mise en œuvre par la République fédérale allemande dans les années 70 et 80, qui s'est perfectionnée au fil du temps. Et je pense au remarquable travail de Dominique Lienhardt sur le sujet, qui montre qu'au fond, liberté et sécurité ne sont pas nécessairement les vases communicants qu'on nous présente toujours, et qu'il y a moyen de mettre en œuvre des politiques de sécurité qui sont d'une certaine manière respectueuses des libertés. Mais que pour cela, il faut accepter que la politique de sécurité fasse l'objet d'un débat public sans censure et qu'il ne soit pas confisqué au fond par des symboles, par des réactions un petit peu rapides, épidermiques. Et je crois qu'on a malheureusement pas fait l'économie de ces réactions un peu rapides, et que le Patriot Act a servi un petit peu comme ça soit de repoussoir, soit au contraire de modèle, là où on aurait peut-être dû réfléchir autrement. Moi je voulais, peut-être on va le faire un peu plus tard, revenir sur le discours de François Hollande hier, parce que je l'analyse de ce point de vue comme une rupture très très grande, c'est-à-dire que le François Hollande que j'ai entendu hier n'a pour moi strictement rien à voir avec le François Hollande des mois de novembre-décembre dernier, celui qui voulait mettre en œuvre cette déchéance de nationalité. Et le discours que j'ai entendu hier, combien j'aurais aimé l'entendre au mois de novembre et au mois de décembre. Je pense qu'aujourd'hui, l'état de notre débat public ne serait pas le même si le ton, si le « là » avait été donné à cette époque-là par celui qui est en charge de le donner, le président de la République.
Et bien justement, avant de poursuivre la discussion, écoutons-en un extrait.
Je constate que l'imagination est sans limite et prend des tours inquiétants. Pour défendre le droit, voilà qu'il faudrait commencer par l'ABC. Recourir à des internements administratifs dans des camps. Enfermer les suspects sans discernement et sans jugement. J'entends même qu'ils veulent ressusciter la Cour de sûreté de l'État. Revenir sur l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Renier les droits de l'homme et la Convention internationale qui les soutient. Ces reniements seraient autant de renoncements, mais sans nullement assurer la protection des Français. Là encore, l'histoire nous apprend qu'oublier ces principes augmente le malheur du monde sans réduire les périls. Est-ce que l'adoption du Patriot Act ou le camp de Guantanamo ont préservé les États-Unis de la menace? Non. Les principes constitutionnels ne sont pas des arguties juridiques.
Voilà, donc ça, c'était François Hollande hier à Paris. Est-ce que ce François Hollande, là, pour vous, Ludivine Brantigny, et c'est la question que je pose à vous quatre, est différent de celui du mois de novembre? Et est-ce qu'il est convaincant? C'est-à-dire, est-ce qu'il est crédible, en tout cas, en gardien, on va dire, des libertés, de l'état de droit, de la Constitution?
Non, c'est vrai que je ne ferai pas du tout la même réponse que Sylvain Bourmou, ou en tout cas, le même constat, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une continuité. Bon, moi, j'ai trouvé vraiment ce discours, par-delà la rhétorique, assez creux. Hein. Mais sur le fond, c'est quand même une manière de rappeler, de marteler même, de manière assez martiale, que nous sommes en guerre, qu'il faut mener cette guerre sans quartier, sans faire de quartier.
Oui, mais en respectant les libertés.
On peut y revenir. Donc, c'est une manière de gouverner par la guerre et par la peur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez constaté dans ce discours à quel point il est contradictoire, il est pétri de contradictions. Parce que d'un côté, François Hollande nous dit il ne faut pas alimenter les peurs. Mais en fait, tout son discours ne fait que nourrir les peurs, la terreur, la militarisation. Il a beaucoup insisté sur l'importance de la défense nationale, du renforcement des dispositifs militaire et sécuritaire. Okay. Une militarisation qu'on peut voir au quotidien, dans nos rues, jusqu'aux tables des bistrots qui sont désormais ornementés d'affiches pour l'armée française, etc. Mais quand on entend François Hollande dire qu'il est contre l'état d'exception, l'état d'urgence est un état d'exception. Et les juristes, les magistrats, le syndicat de la magistrature l'ont amplement démontré. On pourrait citer très précisément des arguments sur cette question. Et il faut rappeler juste pour terminer que par rapport à ce qu'il dit sur l'histoire, encore une fois, c'est pas du tout anodin que cet état d'urgence provienne directement de la guerre d'Algérie, que l'état d'urgence ait été réactivé en 1985 en Nouvelle-Calédonie et en 2005 dans les banlieues lors des révoltes populaires. Donc c'était bien pour des raisons intérieures et non pas de lutte contre le terrorisme.
Philippe Manière.
Moi, j'ai été frappé effectivement par cette espèce de curieux chiasme qu'il y a entre ce que dit le président de la République dans ce discours d'hier, qui effectivement est pas, enfin, je veux dire, c'est pas d'une densité intellectuelle très considérable, et son action. D'abord, quand il dit « je suis le garant de la Constitution, moi vivant, on ne la violera pas », c'est quand même bien le moins, c'est son boulot, j'allais dire, hein, donc on n'a pas forcément besoin qu'il nous le rappelle. En revanche, et même si effectivement pour le moment on n'a pas violé à la lettre la Constitution, il a quand même fallu attendre ce grand président de gauche, ami des libertés publiques, qui se présente comme tel dans le discours d'hier, pour avoir l'état d'urgence permanent. C'est quand même une forme d'oxymore. Enfin, c'est quand même très singulier. Donc, moi, je ne suis pas convaincu, et j'essaye de comprendre pourquoi il y a cette espèce de chiasme, cette espèce de succession de postures. La vérité, c'est que quand vous êtes au pouvoir, il faut quand même voir les choses. Il ne faut pas accabler le pauvre président de la République. N'importe qui à sa place serait quand même soucieux d'essayer de maintenir et de rétablir l'ordre et de rassurer les concitoyens. Il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte demande de sécurité dans ce type de période. Bon. Et puis symétriquement, il y a la posture à laquelle on a eu droit hier, qui est celle du candidat, et qui évidemment a besoin de se positionner comme l'ami des libertés publiques, parce que c'est traditionnellement quand même un peu plus le terrain de la gauche. C'est ça qui me frappe d'ailleurs beaucoup, c'est que c'est un président de gauche, et qui se revendique comme étant un président de gauche, de chez de gauche, qui nous a suspendu les garanties constitutionnelles pendant la plus longue période de l'histoire. On est quasiment au-delà de ce qu'on avait connu pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est quand même très singulier. Moi, je crois que tout ça n'est pas forcément très crédible. C'est très compréhensible, en revanche, d'un point de vue tactique électoral. Et, encore une fois, il ne faut pas non plus l'accabler trop, c'est très difficile de tenir les deux bouts de la ficelle. C'est-à-dire qu'il y a une demande de sécurité qu'on ne peut pas négliger, même si on est évidemment l'ami inconditionnel des libertés publiques.
Anastasia Colosimo.
Il me semble quand même qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, parce que dans l'urgence, il y a deux aspects. On décide de l'urgence, on décide dans l'urgence. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures aussi qui ont été prises dans l'urgence. Et pour parler de questions sur lesquelles, pour le coup, j'ai un peu travaillé précisément, cette loi qui a été passée sur l'apologie du terrorisme, par exemple, qui était très intéressante, qui a été promulguée le 13 novembre 2014, donc un an avant les attentats, et qui était une loi qui pénalisait les propos, l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Et cette loi, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, c'est cette loi-là qui a permis de mettre en prison des jeunes qui avaient débilement tweeté « Je suis Kouachi » et qui, bon, à mon avis, ne représentaient pas, n'étaient pas la priorité, en tout cas, dans la sauvegarde de l'ordre public.
Faut préciser peut-être, d'ailleurs, cette apologie du terrorisme, c'était au départ cantonné au délit de presse, et puis c'est arrivé dans le code pénal
en
2014.
Et donc, ça veut dire que les procédures ont été extrêmement simplifiées, avec une comparution immédiate, un juge unique, etc. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces décisions dans l'urgence, elles sont aussi très dangereuses, parce que, et c'est ce qu'on voit du travail de nos parlementaires, on ne peut pas trop les accabler non plus, parce qu'il y a une espèce de demande législative, il y a un désir de pénal qui est extrême dans ce genre de moment. Mais effectivement, la manière dont tout ça est fait, et c'est là où la procédure est fondamentale pour nos libertés, la manière dont tout ça est fait, je trouve que c'est là où est un très grand danger.
Je reviens sur le discours du président de la République, Salva Graham. J'ai évidemment qu'il y a un décalage immense entre le discours et la réalité de la politique menée. En particulier, effectivement, la prolongation de l'état d'urgence. Et je rejoins les inquiétudes de Ludivine Bantini, dénoncées par le syndicat de la magistrature, mais aussi par un certain nombre de gens, y compris de l'autre bord politique, sont soucieux du libéralisme. On en parlait la semaine dernière. On était là, Philippe Manière et moi, à dire « état de droit », à se réjouir de la décision du Conseil d'État. Mais pourquoi nous réjouissions-nous tant la semaine dernière? Tout simplement parce qu'on sortait d'un été dans lequel on avait le sentiment d'être assez minoritaire dans ce pays, y compris parmi les responsables politiques, y compris parmi les responsables politiques de gauche. Donc, quand je dis que j'ai pris comme une bonne nouvelle le discours du président de la République, c'est pour cette raison-là. Après, je ne suis pas naïf. Je partage l'analyse que propose Philippe Manière des intérêts stratégiques que François Hollande a à tenir aujourd'hui ce discours, alors même...
Tactique, disons.
tactique, qu'il a à tenir ce discours aujourd'hui après avoir, de façon incompréhensible, proposé et maintenu si longtemps cette proposition de la déchéance de nationalité. Il faut quand même rappeler ici que celui qu'il a décidé de faire revenir au gouvernement, qui est aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait pris position publiquement de façon très claire contre, ainsi qu'un certain nombre de leaders de la gauche, bien évidemment, parce que ce sont des principes qui d'ailleurs dépassent la gauche. Alors, moi, je note une chose. Hier, je vois bien que tout ça a à voir avec la manière dont François Hollande se projette dans l'avenir. Je vois bien qu'il choisit de faire de Nicolas Sarkozy son adversaire numéro un. Il croise les doigts en espérant que Sarkozy gagne cette primaire de la droite. Parce que c'est sa seule chance, au fond, d'espérer figurer au mieux dans l'élection présidentielle qui s'annonce. Mais moi, je voudrais souligner une chose qui, jusqu'à présent, m'a paru assez peu remarqué, et j'ai même lu le contraire sous la plume de David Revolalon dans Le Monde. Je trouve que François Hollande, hier, il avait beau avoir en face de lui son Premier ministre, a tenu un discours aux antipodes de celui de Manuel Valls. Je ne parle pas de la politique menée, je parle de son discours sur le burkini, sur le rapport à l'état de droit, aux libertés publiques. Il a pris le parti, disons, de Jean-Marc Ayrault ou d'un certain nombre d'autres dans son gouvernement. Et ça, c'est une grande surprise. Alors là aussi, est-ce lié à des raisons tactiques? Est-ce que c'est parce que, précisément, Emmanuel Macron ne sera pas quelqu'un qui se positionnera sur ce terrain autoritaire qui est celui de Manuel Valls, avec lequel, par ailleurs, il peut partager un certain nombre de préoccupations du côté de la politique économique, mais certainement pas du côté des libertés? C'est fort possible. Mais en tous les cas, pour moi, il y a aujourd'hui un divorce sur ces questions, en tous les cas dans le discours, entre le président de la République et Manuel Valls, qui se retrouve, pour le coup, très isolé à gauche.
Alors, ce sont des questions extrêmement vastes auxquelles on ne peut pas répondre en 40 minutes. C'est des sujets d'ailleurs dont on aura l'occasion de reparler dans les prochains clubs des idées du grain. Mais puisque vous évoquiez tout à l'heure, Anastasia Colosimo, les deux dimensions, c'est-à-dire en gros les conséquences politiques intérieures et puis la façon aussi dont la France se projette à l'extérieur, je voudrais juste vous citer deux petits extraits des propos de George W. Bush en 2001, de François Hollande en 2015. Bush en 2001, les terroristes nous ont attaqués parce que nous sommes la maison et les défenseurs de la liberté. Hollande en 2015, nous sommes attaqués parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Est-ce que des guerres à l'extérieur, puisqu'il y a des guerres qui ont été menées en Afghanistan, en Irak, et puis là aujourd'hui en Syrie, en Irak, en tout cas contre l'État islamique, des guerres qui sont menées au nom de la défense des libertés, ce sont des guerres qu'on peut considérer malgré tout comme légitimes.
Déjà, je pense que ce sont des guerres qui sont fondamentalement néoconservatrices. Je pense que le plus intéressant, en fait, quand on compare Hollande et Bush, c'est de voir que le discours néoconservateur de Bush a été complètement endossé par le gouvernement Hollande. Et donc, cette idée qu'il y a, en fait, des défenseurs de la liberté et des ennemis de la liberté, et que ces ennemis de la liberté, c'est le mal radical qu'il faut anéantir, détruire et effacer de la surface de la planète, c'est l'idée qu'il y avait après 2001, et c'est l'idée qu'il y a aujourd'hui. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il y a quand même 15 ans qui sont passés entre-temps. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu la création de Daesh et on a effectivement l'impression que la réflexion qui a été menée n'est pas allée jusqu'au bout.
Philippe Pagnard, vous avez...
Non, là, franchement, je suis en désaccord avec Anastasia parce que ça ressortit quand même à l'observation élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis de la liberté. D'ailleurs, ils disent qu'ils le sont, les ennemis de la liberté. Ils viennent frapper sur nos sols, que ce soit les États-Unis il y a un moment ou en France aujourd'hui. Je veux dire, alors, il est vrai que la France et les États-Unis ont en partage une espèce de vision messianique, à peu près d'ailleurs, j'allais dire unique, non, puisqu'elles sont deux, mais elles sont les seules à exister dans le monde. Les Danois, les Allemands, les Japonais, les Indiens n'ont jamais eu particulièrement envie d'exporter leurs valeurs. Nous avons, avec les Américains, en partage cette envie de porter des valeurs où la liberté, évidemment, dont la liberté est un ingrédient fondamental.
Cela dit, François Hollande ne s'est pas donné pour mission d'instaurer la démocratie au Moyen-Orient, là, quand même.
C'est vrai, c'est là où moi je trouve qu'il y a une vraie liberté. C'est-à-dire qu'il y a l'observation de bon sens, qu'à mon avis, on peut difficilement réfléchir. Il y a des ennemis de la liberté et il y a des pays qui veulent porter la liberté. Parfois, c'est un peu ridicule, parfois, c'est un peu exagéré, mais il y a donc une tension naturelle entre ces deux pôles. Et puis ensuite, il y a ce qu'on en fait. Donc, il est vrai qu'on peut contester ce qu'ont fait les néoconservateurs à partir de ce constat. Leur constat n'en était pas pour autant erroné. Et on ne peut pas dire que la France a fait la même chose. Alors, on a quand même été très actifs parce qu'il y a une tradition de projection extérieure de la France en Afrique et au Moyen-Orient, en particulier en Afrique. On a quand même été très actifs avant les attentats.
Particulier au Mali. C'est nous qui sommes allés voir Obama pour dire on va bombarder Damas. Et on était prêts à le faire. C'est-à-dire que
c'est ce qui est intéressant, que c'est que les États-Unis... La Syrie, on ne sait pas exactement ce qu'on
voulait faire. Il y a eu une mutation aux États-Unis entre Bush et Obama, et nous, on a hérité de l'aspect Bush.
Non, franchement, bombarder la Syrie, je ne sais pas exactement ce qu'on aurait fait, mais c'était évidemment pas du même ordre, ne serait-ce que parce qu'on n'en a absolument pas les moyens que ce qu'ont fait les États-Unis en Irak. Notre petit précaré, c'est l'Afrique, et je crois qu'on peut difficilement contester que la France a joué un rôle plutôt positif pour la paix et pour les libertés au Mali. Alors évidemment, quand on fait la guerre, on ne fait pas que du bonheur. Hein. Mais en dehors de ces opérations extérieures, très limitées, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre, on ne peut pas filer la métaphore en disant que la France fait aujourd'hui, sur la base de la même vision, ce qu'ont fait les néoconservateurs américains.
On peut d'ailleurs rappeler qu'en Afrique, la France est intervenue à la demande des gouvernements africains.
Juste une petite chose, d'abord, pour me décaler un peu par rapport à ce qui est dit, avec le nous, notre précaré, nos interventions, etc. Enfin, moi, je ne m'inclus pas dans ce nous, et je pense que beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices ne s'en pas.
Donc, c'est la France.
Non, mais justement, c'est un problème majeur, justement, de ce qui est fait en notre nom. Et de manière assez invisible, parce que tout à l'heure, vous avez dit, Philippe, que les attentats du 11 septembre, c'était particulièrement visible, c'était des morts sous nos yeux, sur nos écrans de télévision, mais tous les jours en Syrie, il meurt l'équivalent d'un Bataclan, et c'est invisible. Et ce qui est invisible aussi, c'est ce que les interventions françaises, les interventions militaires françaises, font partout, y compris pour les populations civiles, parce qu'il ne faut pas imaginer que les bombardements français seraient absolument propres et sans bavure
par rapport aux populations. La guerre, civile, on fait bien sûr.
Par exemple, aux bombardements russes qui, eux, seraient particulièrement meurtriers. Mais moi, je voudrais juste poser une question par rapport à cette question des ennemis de la liberté. C'est l'Arabie Saoudite, si on en parlait. L'Arabie Saoudite, que je sache, qui est un allié de la France, que la France arme.
Et des États-Unis.
D'abondance, et des États-Unis avec des financements d'une complexité. Voilà. François Hollande a encore rappelé cette erreur devant à la fois évidemment les calamités humaines que suscite Daesh et aussi la destruction du patrimoine archéologique de patrimoine de l'humanité. Mais l'Arabie Saoudite, là, depuis 2015, par exemple, a détruit 52 sites archéologiques, sans compter que, bon, c'est un régime, le régime saoudien, dont on sait très bien qu'il décapite, qu'il fait lapider des femmes, etc. Mais pour autant, que je sache, on n'a pas proposé d'aller bombarder l'Arabie Saoudite, pendant que, pourtant, ce pays est en train de bombarder le Yémen et d'anéantir vraiment des populations. Donc, en fait, c'est quand même un discours sur la liberté, le supposé universalisme de la France. Pourquoi nous nous battons, a répété François Hollande ? Bon, sans compter, sans être caricatural, je terminerai là, sans compter que bon, il y a d'autres intérêts qui jouent. Il ne faut pas être non plus absolument naïf au Moyen-Orient ou en Afrique, des intérêts qui sont bassement économiques, qui peuvent être liés à des pipelines, liés à des ressources minières, énergétiques de toutes sortes. Enfin, voilà, on n'est pas non plus né de la dernière pluie à cet égard quant à l'universalisme de la mission civilisatrice de la France.
Il y a une dimension messianique dans la façon de défendre la liberté à l'extérieur des frontières de la France. C'est un bourmeau qui rappelle peut-être la façon dont les États-Unis ont agi il y a une douzaine d'années.
Je suis pas sûr. On peut toujours comparer. Je pense pas que néanmoins les opérations se soient passées de la même manière. Je rappelons quand même que les États-Unis, avec les Anglais, Tony Blair en sait quelque chose, sont intervenus en Irak sur la base de mensonges. Le travail de la commission et des commissions d'enquête parlementaires britanniques est à saluer. Ce sont des documents pour l'histoire extraordinairement importants. Bon. Aujourd'hui, on a le recul sur ces interventions. On n'a pas le même type de recul sur les interventions qui ont pu être menées plus tard par la France. Néanmoins, on peut remarquer, par exemple, à l'époque, au moment, je me suis félicité personnellement de la décision prise par François Hollande, et je pense que c'est l'une des décisions les plus importantes qu'il a eu à prendre dans son mandat de président de la République, d'intervenir au Mali. Je pense que compte tenu de la situation qui s'est trouvée provoquée par l'intervention, cette fois voulue par Nicolas Sarkozy en Libye, par un effet de domino, la situation devenait très dangereuse au Mali et qu'il était temps, et autant prendre cette décision relativement rapidement pour que ça reste dans les moyens militaires en particulier et financiers de la France. Donc je pense que là, il a bien fait, et bon, évidemment, c'est une guerre, mais je pense qu'on a agi en plus en respectant les formes, les procédures juridiques du droit international, en faisant en sorte que, parce que cette position est compliquée pour la France, ancien colonisateur, néanmoins en faisant en sorte que les pays de l'Union africaine, voilà. Le Mali est quand même parmi les pays les plus pauvres au monde, 23e pays le plus pauvre au monde. Néanmoins, pendant d'assez longues années, il a eu un système démocratique qui fonctionnait pas si mal, en tous les cas mieux que beaucoup d'autres pays africains. Et c'était assez spectaculaire compte tenu du niveau de vie de ce pays. Et je pense que...
Et les islamistes sont arrivés.
Et je pense que c'était important de sauver ça. Il y a d'autres manières de sauver, j'aimerais bien qu'on fasse des politiques de développement un petit peu différentes, etc., bien entendu. Mais enfin, quand même. Donc, je pense qu'il faut, garder raison dans cette comparaison. Et on n'a certainement pas mené, au nom de la France, des guerres du même type que les Américains et les Anglais ont pu mener après le 11 septembre.
J'en profite pour une courte parenthèse pour dire que si vous vous intéressez justement à la question des relations entre la France et l'Afrique, c'était justement l'objet de notre émission d'hier, où il y avait notamment notre confrère Christophe Boisbouvier de RFI qui expliquait que par rapport à l'intervention française au Mali, ça avait été aussi, pas seulement, mais aussi une façon pour François Hollande et la France de justifier d'une certaine manière son statut de grande puissance. Anastasia Colosimo.
Alors, je voulais juste répondre rapidement sur cette question de néoconservatisme et surtout d'exportation des droits de l'homme et de démocratie. Il me semble qu'il est évident qu'il y a aujourd'hui des pays qui promeuvent des sociétés plutôt ouvertes et sympathiques et des pays qui sont extrêmement dangereux et nocifs, non seulement pour leur population, mais pour le monde entier. Une fois dit ça, je reviendrai sur ce qui a été dit et sur le fait que, par ailleurs, effectivement, on décide un peu qui sont les gentils et qui sont les méchants. Donc, l'Arabie Saoudite, ce sont des gentils. Mais par exemple, on avait décidé que la Syrie ou la Russie, ce sont des méchants. Alors que je pense que le régime russe est en fait moins liberticide que le régime d'Arabie Saoudite. Enfin, ce serait une autre discussion. Mais oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on décide avec
difficile
qui on
de
joue.
Plus, mais...
Et la réalité, c'est que derrière, il y a évidemment que des questions de réel politique. Et ce qu'on a envie d'entendre, c'est ces raisons-là. Et je pense que maquiller tout ça aussi derrière les droits de l'homme, derrière l'université française, c'est un problème parce que du coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à détruire et anéantir Daesh ? Parce qu'on ne veut pas passer d'accord avec Bachar el-Assad en Syrie et Poutine en Russie, et que si on voulait vraiment détruire Daesh, ça serait déjà fait si on avait passé ces accords.
Non,
et avec l'Iran, bien sûr que c'est.
Non, on ne peut pas dire ça. C'est très expéditif, Anastasia, pardonnez-moi.
Mais non, c'est pas du tout expéditif.
Il y a évidemment la réelle politique.
Il
y a la réelle politique. L'homme est l'homme et la nature est la nature. Et ce serait ridicule de la nier. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Il y a toujours une combinaison d'idéal et de réelle politique. Mais ça n'est pas parce qu'il y a des intérêts qu'il n'y a pas par ailleurs aussi des valeurs. Et quand les États-Unis, par exemple, décident d'aller en Irak, certes, ils ne sont pas indifférents à l'approvisionnement en pétrole, mais il n'y a pas vraiment à ce moment-là de menace sur l'approvisionnement en pétrole, à l'échéance de la guerre précédente où le Koweït était sous la main de Saddam Hussein, il pouvait y avoir une crainte. Ils y vont aussi, et encore une fois, je ne suis pas en train de défendre, mais je voudrais expliquer simplement
le sérieux. Il faut prendre au sérieux, absolument. Pour le coup, la guerre en Irak, c'est vraiment un fiasco. Enfin,
mais je ne dis pas que ce n'est pas un fiasco. Je viens de commencer par dire, je veux simplement vous expliquer qu'à l'époque, ils étaient évidemment motivés aussi par des raisons d'intérêt, mais pas seulement, il faut le comprendre. Moi, j'ai vu à l'époque des gens dans l'administration américaine qui disaient, écoutez, on constate avec le 11 septembre l'amertume musulmane, c'est un danger pour le monde, on ne peut pas nier aujourd'hui que c'est une réalité, et donc nous avons décidé d'essayer de créer, c'était démiurgique et délirant peut-être, mais ils voulaient créer une démocratie,
un pays prospère. Mais ce n'était pas seulement délirant, c'est-à-dire que les conséquences sont terribles.
Peu importe, je vous dis simplement qu'ils n'étaient pas motivés exclusivement par l'intérêt. Leur motivation en termes de valeur étant mal fondée et délirante, on peut le penser, mais il y avait cette motivation sincère.
C'est singulier, mais c'est comme ça. Ils nous font croire que c'est sur les droits de l'homme que tout se décide, alors qu'il y a un tas d'autres choses qui décident de ces questions-là.
Bon, comme souvent, évidemment, dans ce genre d'émission, c'est à la fin que le débat prend vraiment. Et puisque c'était sa première intervention chez nous ce soir, les Divines Bantini, peut-être un mot de conclusion, c'est toujours compliqué.
Oui, moi, je veux juste dire que, selon moi, la guerre, c'est un détournement. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de ne pas parler des choses essentielles. Et quand François Hollande, je conclue vraiment par là, dit, je le cite, « En se battant en pays étranger, nos armées nous défendent », moi, je suis persuadée du contraire. Je suis persuadée que ça crée une spirale infernale de violence et de vengeance dont on paye le prix au quotidien, et là-bas.
C'est bien pour parler de choses essentielles que nous nous retrouvons désormais chaque vendredi, ouais, c'est le sens de la transition, dans le club des idées du grain. Merci beaucoup à tous les quatre, Ludivine Bantini, Sylvain Bourmeau, Philippe Manière et Anastasia Colosimo. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine du grain avec la question suivante. Marine Le Pen a-t-elle déjà vampirisé 2017 ? Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son David Federman. Tout de suite, avant de retrouver Ping Pong, nouveau rendez-vous de cette journée spéciale L'Amérique aujourd'hui avec la romancière Catherine Cussé. New York est une ville du tiers-monde, c'est le titre de son avant-dernière chronique américaine de la journée.
Le barbier ouzbek, installé dans ma rue depuis 30 ans, coupe pour 20 dollars les cheveux des vendeurs de drogue qui comptent leurs liasses de billets verts sans se soucier des policiers qu'ils croisent, et, depuis peu, ceux des jeunes banquiers qui ont acheté pour plusieurs millions de dollars les lofts dans les immeubles industriels rénovés qui servaient autrefois d'ateliers d'artistes. Juste en face, le café branché où l'on sert un excellent expresso ne désemplit pas. À l'autre bout de la rue, les Sénégalais sans papier qui vendent aux touristes des sacs de contrefaçon ôtent leurs chaussures 5 fois par jour, par tous les temps, pour prier Allah sur des bouts de carton déchirés. 2 rues plus à l'est, on se retrouve dans Chinatown qui grouille de monde et où l'on peut acheter des fruits et des légumes dont on ignore les noms. Tous ceux qui sont venus ici ont un but. Y arriver. Vendre. Gagner. Devenir riche. New York est une ruche qui bourdonne. Une ville où tout le monde est busy. Où la pression est extrême et où le bruit jamais ne cesse. Où l'on répare de vieux tuyaux rouillés en vrillant le béton de la chaussée sous vos fenêtres au cœur de la nuit, où hurlent jour et nuit les sirènes de la police et des ambulances, les freins déchirants des énormes camions tressautant sur les trous des chaussées défoncées, les klaxons des conducteurs que rendent fous les embouteillages. New York est une ville du tiers-monde, une ville où les tours poussent comme les champignons après la pluie, une ville que rien ne paralyse, ni les montagnes de neige l'hiver, ni la chaleur suffocante de l'été, rien. Sinon des tours jumelles qui s'effondrent. Mais vite, très vite, en un rien de temps, la ville se remet debout.
Voilà, Catherine Cusset, que vous retrouverez juste avant 20h pour la suite et la fin de ses chroniques américaines. Catherine Cusset qui publie en cette rentrée chez Gallimard, L'autre qu'on adorait. Il est 19h dans un court instant, ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir à vous deux.